Donc, bonjour, bienvenue pour cette conférence. Donc, la crise est-elle un jeu massivement multijoueur? Donc, je vais essayer de revenir un petit peu sur cette thématique. Brièvement, je me présente, pas ma photo, mais j'ai bien placé. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. Je suis maître de conférence à l'Université Lyon 2 en sciences de l'information et de la communication. Mon dada, c'est tout ce qui est communication électronique et dispositifs multimédia interactifs. Je m'intéresse un peu aux jeux vidéo, aux usages des médias numériques, aux communautés virtuelles, aux logiciels libres, aux peer-to-peer, donc un certain nombre de choses comme ça. Dans le passé, j'ai fait un peu de développement multimédia, j'ai fait formateur, j'ai fait webmaster, j'ai fait consultant, j'ai fait du journalisme informatique, un tas de petits bricoles. Voilà, donc j'ai une thèse en sciences de l'info, et puis pour ceux qui veulent remonter encore plus loin, j'ai des thèses en psycho, puis encore plus loin, j'ai un bac D, et puis... Et j'avais des A quand j'étais au CP, mais après ça s'est cassé. Ah, alors je vous propose, avant de commencer sur le thème, d'essayer de voir un petit peu si, entre ces deux images, vous faites des grandes différences. Quelle grande différence vous faites entre ces deux images?
La lumière et l'écran.
Ouais, on n'a pas tout à fait la même luminosité. Alors les écrans, quelle différence entre les écrans? Ouais, il y a des écrans cathodiques et il y a des écrans plats. C'est presque plus une question de moi que de choses particulièrement différentes. Bon. La différence, c'est d'un côté, il y a ce qu'on appelle une live party, et de l'autre côté, il y a une salle de marché, donc des cotations en bourse. La différence, c'est que dans la live party, c'est donc des gens qui font des jeux vidéo. Ils sont tous en train de faire des jeux et en train de se battre, de guerroyer les uns contre les autres dans cet immense gymnase. La différence, c'est que eux, ici, n'ont qu'un seul écran, alors que les autres en ont beaucoup plus devant eux. Donc, on voit que ceux qui s'occupent de l'économie réelle sont peut-être un petit peu plus virtualisés que ceux qui essayent de détruire les elfes. Et puis des chimères. N'empêche que c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est un peu d'essayer d'être... Vous proposez d'être sur l'hypothèse que l'interactivité numérique rende vidéoludique les pratiques qu'on peut avoir au quotidien et les pratiques professionnelles. Et avec dans l'idée que la crise est une conséquence peut-être d'une sorte de jeu vidéo planétaire multijoueur qui pourrait s'appeler Financial Quest. Donc voilà un petit peu l'idée thématique un petit peu sur laquelle je pensais partir ce soir, donc sur cette idée que l'informatique, l'interactivité, ont bouleversé notre rapport au réel, notre rapport au quotidien, notre rapport à nos pratiques quotidiennes, et en particulier nos pratiques professionnelles, et ceci peut-être plus particulièrement dans certains milieux plus que dans d'autres, et notamment dans le milieu de la finance. Alors, la petite capture d'écran ici, c'est pas un jeu inventé, c'est un truc qui est un jeu de casino en fait, hein, sur un casino en ligne, hein, mais qui me semblait un petit peu représentatif de l'idée que peut-être qu'aujourd'hui, l'informatique va envahir les processus décisionnels et que d'une certaine manière, les prises de décision, les choix qui sont faits, ressemblent à des stratégies, à des choix qui sont faits dans des conditions de jeu. Et que peut-être des gens prennent des décisions qui ont des relations avec, on va dire, le monde réel, c'est simple, qui les prennent comme si d'une certaine manière, ils fonctionnaient avec un imaginaire qui est proche du jeu vidéo. Alors, je pense que le monde économique, le monde de la finance, je pars peut-être du principe, peut-être abusif, de dire que vous le côtoyez relativement bien et assez régulièrement, mais que lorsqu'on parle de jeux massivement multijoueurs, c'est peut-être pas forcément une notion commune. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent des jeux massivement multijoueurs? Quelques-uns, oui, mais on n'est pas obligé de les pratiquer tous, et c'est difficile de les pratiquer tous. parce qu'on va dire qu'ils vont imposer un certain nombre de contraintes, donc on peut difficilement les voir tous. Donc, pour essayer d'illustrer ça, je vais essayer de vous diffuser en fait un court-métrage qui est passé sur Arte. Donc un court-métrage qui s'appelle No Lack. Donc peut-être certains l'ont déjà vu, mais un court-métrage qui s'appelle No Lack. De temps en temps, j'arrêterai le court-métrage pour revenir un petit peu sur des séquences qu'il y a dans ce court-métrage et qui me paraissent particulièrement intéressantes du point de vue des significations, des enjeux, puis pour comprendre aussi un petit peu ce qui se passe dans le jeu peut-être à certains moments. Donc, je vais essayer de lancer ça. Je vais jongler. Mais le jonglage n'est pas si simple. On baisse un peu le son pour pouvoir couvrir un petit peu la bande son. Et donc ici, on a quelqu'un qui est en train de faire un jeu en réseau. En fait, il ne joue pas tout seul sur son ordinateur. Son ordinateur est connecté à un serveur. Et les autres personnages, eh bien, sont en fait d'autres joueurs qui se situent dans d'autres endroits de la planète et qui sont en train de jouer en temps réel avec lui. Donc lui incarne un personnage et puis les autres incarnent d'autres personnages. Donc il a gagné, il y a un petit côté gratification qu'on lit sur son visage. Donc ici, ce qu'on aura remarqué, c'est le côté double écran. Alors là, il fait une pause, il vient de terminer entre guillemets les manches, et il est allé se chercher à voir, mais vous voyez qu'il est monopolisé par son système, alors il a deux écrans, il est dans une vision du monde qui est multitâche, donc d'un côté son jeu, et de l'autre côté un écran, si on va le voir, lui sert en fait à communiquer, notamment avec ses partenaires de jeu. Parce qu'en fait, il ne joue pas tout seul, il joue en équipe. Il fait partie d'un clan. Donc, là, vous reconnaîtrez à l'accent que celui qui est en face est québécois. Pourquoi celui qui est en face est québécois? Parce que nous sommes au milieu de la nuit, et en fait, dans l'équipe, ils vont faire un relais pour que lui puisse dormir un peu. Il y a quelqu'un qui va prendre son joueur en charge pendant 10 heures. Et ça tombe très bien, les Québécois sont francophones, il y a un décalage horaire de 6 heures. Donc, ça permet comme ça d'avoir une équipe qui va pouvoir fonctionner 24 heures sur 24. Ici, c'est songe. Ces songes, eh ben, c'est des fragments de vie. Ça, c'est le courrier. Vous voyez, manifestement, il est plus omnipilé par quelque chose qu'un autre truc. Donc, il a quand même pris un embryon de douche, je pense surtout pour se réveiller plus que pour se sentir propre. Et il émerge et il a faim. Donc, plutôt que sortir de chez lui, il commande. Et Stan se connecte. Donc, en même temps qu'il joue, qu'il commande, etc., on voit ce côté multitâche. Il s'interconnecte avec Stan, qui est un bon copain à lui, qui lui a prêté des thunes. Et donc, il lui voit des sous. Donc, il faut qu'il gagne de l'argent. Pour gagner de l'argent. Eh bien, c'est parti, il va lancer un autre jeu en parallèle. Il va jouer au poker en ligne. Donc, on voit que malgré tout, il y a un côté stress qui est en train de monter de façon conséquente. Et il est en train de jouer à deux endroits à la fois dans son jeu. Et puis là, c'est la livraison. C'est la livraison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le passage, il se fait livrer, et le livreur est complètement dépersonnalisé. Le livreur, il, effectivement, il ne trouve pas son casque, mais l'autre, il ne dit pas bonjour non plus. Il l'ignore relativement bien, donc à mon avis, il aurait pu se servir de deux, trois trucs dans l'appartement. Il le paie, il fait le grand seigneur en lui disant la monnaie, simplement, parce qu'il est plus optimisé par son jeu. sa monnaie. Donc là, on voit que le multi-écran génère une tension assez conséquente. Et là, il a gagné. Donc, il a l'impression que sa vie fonctionne correctement. Parce que finalement, tout va bien. Jusqu'au moment où ça sonne. Et avec sa vidéocam, il s'aperçoit que maman est arrivée pour lui souhaiter son anniversaire. Il coupe le son. Silence absolu. Vous vous rappelez dans les sous-marins de guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand à bord du U-boat, on se tait parce qu'il y a un bateau qui est au-dessus et que le moindre bruit pourrait faire en sorte qu'on soit détecté par le sonar. Et bien, on est un peu dans la même situation. Silence. Bon, sa maman soupçonne bien qu'il est là. Et ça introduit l'idée qu'il y a peut-être des phénomènes de désocialisation, en tout cas de désocialisation familiale. Il faudra peut-être revenir un petit peu sur cette idée. La désocialisation n'est pas complète, la désocialisation, elle est sélective. Donc, s'il ouvre, s'il arrête le jeu, c'est pas pour vérifier que. Pour avoir la réponse, c'est pour vérifier qu'elle est bien partie. Ce qui est intéressant dans ce passage, en fait, c'est qu'il est en train de se faire engueuler par son équipe. Il n'a pas été chercher son cadeau d'anniversaire, mais l'équipe a constaté qu'il n'était plus là. L'équipe ne sait pas pourquoi il n'était plus là. Mais, du coup, il a une injonction à réentrer dans le jeu, à être à nouveau présent et à coller à l'équipe. On fait partie de l'équipe ou on n'en fait pas partie. On est vraiment dans une logique de clan à fond. Donc, il rentre dedans jusqu'au moment où il se passe quelque chose. Et là où il se passe quelque chose, c'est là où moi je décide qu'on s'arrête pour l'instant. Si ma souris veut bien aller au bon endroit. Donc, ici, histoire de vous illustrer un petit peu ce que pouvait être un jeu multijoueur. J'ai pas cherché quel était le jeu multijoueur, il y en a certainement qui connaissent. Bien. Donc on fera un combat de nerfs plus tard. Donc, ce qui m'intéressait dans ce qu'on voyait dans cette séquence, c'est qu'à la fois on est dans une situation de jeu. Mais cette situation de jeu, finalement, ici elle est concentrée. Et d'autant plus concentrée qu'on est dans un court métrage, mais qu'il y a un ensemble de processus dans le rapport à l'objet de communication qu'on retrouve peut-être à d'autres endroits dans la société, à d'autres moments dans les pratiques qu'on peut avoir. L'idée que le moniteur ou l'écran devient la fenêtre. Alors, j'ai mis au choix le moniteur ou l'écran, parce que j'aime bien faire la distinction entre les deux. Le moniteur, c'est le nom qu'on donnait initialement à ce truc qui permettait d'afficher les images. Parce que le moniteur, si on va chercher sa racine, ça veut dire « montrer ». Et ce que je trouve amusant dans le terme d'écran, c'est que l'écran, ça sert certes à projeter, mais l'écran, ça sert aussi à masquer, à cacher et à créer du hors-champ d'une certaine manière. Mais en tout cas, dans le terme d'écran et faire écran, à un moment donné, c'est cacher un certain nombre de choses, là où le moniteur, c'était dans l'idée de montrer. Que ce qu'on trouve à l'intérieur de ces jeux, eh bien, c'est qu'on a des pratiques qui sont des pratiques en réseau. Et ces pratiques en réseau, eh bien, font qu'on est dans une communication qui devient une communication à distance planétaire. Cette communication à distance planétaire, elle n'est pas réservée aux joueurs de jeu. Si on reprend même l'image qu'on avait vue au tout départ, on voit même qu'il y a des gens qui jouent en réseau, mais qui jouent en réseau dans un même espace, mais avec quelque chose qui est particulier, c'est-à-dire qu'ils sont côte à côte, mais ils ne sont jamais face à face, et quand ils sont face à face, ils sont face à face par personnages interposés. Et moi j'aime bien, alors éventuellement je reviendrai là-dessus, mais j'aime bien faire la différence entre ce que j'appelle l'acteur et le personnage. L'acteur c'est celui qui agit, le personnage c'est là où il y a une représentation de l'acteur. Et il existe des distances plus ou moins grandes entre l'acteur et son ou ses personnages. Ce qu'il y a de particulier dans ces jeux massivement multijoueurs, c'est que ce sont des jeux qui se passent souvent dans ce qu'on appelle des mondes persistants. Manque persistant, ça veut dire que, eh bien, le temps est continu à l'intérieur du jeu. La partie ne s'arrête jamais. La partie est permanente. Ce qu'on a vu à l'intérieur du jeu tout à l'heure, c'est quand il passe le relais aux Québécois, eh bien, cette persistance et cette rupture du coup du temps continu qui va rompre avec les cycles, notamment circadiens, le fait qu'on ait une alternance de jours qui se succèdent les uns par rapport aux autres avec une alternance entre le jour et la nuit, eh bien on voit que dans un monde de communication planétaire, cette différence entre le jour et la nuit, cette alternance, eh bien elle disparaît, elle s'estompe. Et ce n'est pas simplement valable pour le joueur, c'est qu'à partir effectivement du moment où on est dans une communication planétarisée, bien effectivement on est en décalage horaire avec les Australiens, avec les Nord-Américains, avec les Sud-Américains, avec les gens qui sont aux antipodes. Mais cette communication, eh bien, elle apparaît au travers de ces outils comme une communication à ce moment-là. Elle n'est pas raccrochée à une notion de jour et de nuit. Quand je communique par email, mon email, il n'est pas plus sombre lorsqu'il arrive la nuit. Il n'est pas moins lisible parce qu'il y a moins de lumière. J'ai autant de lumière. La lumière artificielle amenée par l'électricité, par l'écran, etc., là, fait qu'on n'a plus la différence entre le jour et la nuit, et on n'a quasiment plus la différence entre les jours. Et ça induit, ben, effectivement, que toutes les questions qui peuvent se poser autour, par exemple, du temps de travail, au travers de l'organisation de la semaine, eh bien on voit bien qu'avec une communication qui est planétarisée en temps réel, c'est quelque chose qui est difficile de gérer sans introduire une volonté sociale de maintenir une réalité qui n'existe plus. Parce que de fait, cette réalité n'existe plus. Et on voit bien que, artificiellement, pour les marchés, on va dire qu'il y a une ouverture et une fermeture de la bourse, mais c'est pas vrai. Il y a effectivement des temporisations, et en tout cas il y a des marqueurs, des jalons qui indiqueraient qu'il y a des journées qui commencent et des journées qui terminent, mais qui servent plus à calculer l'évolution des indices qu'à arrêter le trafic financier. D'autant plus que si une bourse ne fonctionne plus à Paris, elle a démarré il n'y a pas si longtemps que ça à New York. Et quand elle s'arrêtera à New York, ça sera celle de Tokyo qui prendra le relais. Donc, l'entreprise qui fait de la finance de façon internationale, c'est une entreprise qui tourne 24 heures sur 24. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où vous avez des gens qui travaillent effectivement, en tout cas des entreprises qui travaillent 24 heures sur 24, alors que ce ne sont plus des entreprises, ce ne sont pas des entreprises qui travailleraient 24 heures sur 24 parce qu'il y aurait par exemple des raisons d'urgence, comme ça pourrait être le cas pour les services hospitaliers, les endroits où on peut avoir des gardes, des pompiers, etc., etc. On a derrière aussi quelque chose, alors ceux qui ont regardé le film qui était passé, il me semble, sur Arte, comment ça s'appelle, les autres, il y a les rois de la finance, sur Goldman Sachs, bon, ils ont vu que chez Goldman Sachs, on ne recrute plus des gens, à la limite, qui viennent de parcours économique, on recrute des gens qui viennent de parcours informatique. Ce qui intéresse, c'est des gens qui vont pouvoir travailler sur des logiques et des algorithmes mathématiques qui vont permettre d'avoir une gestion tactique des ressources. Dans les jeux multijoueurs, dans les jeux massivement multijoueurs, vous avez des choses qui sont de cet ordre-là, qui vont dire que vous avez des héros qui sont plus forts sur tel type de combat. Vous avez des héros qui récupèrent de l'énergie. Vous avez besoin de gérer. Alors vous voyez ici, j'ai mis des captures d'un apparent petit jeu massivement multijoueur qui s'appelle Travian. Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué à Travian. Moi, ça m'a pris un an à finir une partie. On m'en a beaucoup voulu à la maison. Parce qu'à 3h du matin, vous vous levez pour être coordonné avec le reste de l'équipe et lancer une attaque. Vous n'avez pas, comme dans le jeu qu'on a vu juste avant, en fait, des personnages à lancer. C'est simplement qu'on gère des compteurs et on clique à la bonne seconde pour que les chefs arrivent une seconde après les troupes qui sont à pied qui vont moins vite que les chefs, donc il a fallu lancer 2 heures avant. Donc on se retrouve comme ça, voilà, une vie qui est réorganisée autour de ça, mais avec des statistiques qui sont purement mathématiques, et vous allez trouver sur le net eh bien, des gens qui vont vous filer des calculateurs, des outils qui vous permettent d'automatiser le lancement de vos attaques, qui vont vous permettre de détecter où sont les terrains qu'il faut conquérir parce qu'ils produisent plus de blé que les autres, etc., etc. Donc, ces tactiques-là sont des tactiques qu'on va retrouver après dans l'univers de la finance, mais qui sont des tactiques qui font qu'on est en train, non pas d'aller moissonner le blé, de le fabriquer, etc., on le jette à partir d'indicateurs, qui sont des indicateurs chiffrés, qu'on trouverait dans tout un tas de décisions boursières actuellement, c'est-à-dire que on ne regarde pas véritablement quelle est la qualité de l'activité, ce qu'on regarde, c'est un certain nombre d'indicateurs, en disant qu'on a peut-être les bons indicateurs. Mais ça veut dire que quand on choisit des indicateurs pour prendre des décisions, eh bien, comme disait l'autre, la carte n'est pas le territoire, ça veut dire qu'on a éliminé des éléments de la carte, enfin du territoire, pour pouvoir constituer la carte. Parce que si on n'éliminait pas d'éléments du territoire pour construire la carte serait le territoire. Donc pour que la carte puisse tenir dans la poche, il va bien falloir qu'on élimine un certain nombre de choses que d'autres. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a un... Alors, après, je l'ai un peu évoqué, cette idée qu'on a des ressources humaines qui gèrent l'interdépendance. Qui gèrent l'interdépendance avec une notion de clan ou d'équipe. Et cette notion de clan ou d'équipe, eh bien, c'est de réussir à faire en sorte que chaque membre de l'équipe devient parfaitement indispensable. Il est peu remplaçable. Et ça a un intérêt majeur de faire qu'il soit peu remplaçable. Parce que ça permet de le responsabiliser. Et le responsabiliser, c'est vachement bien, parce que ça permet de le tenir. Ça crée chez lui une forme d'autodiscipline à dire si je ne le fais pas, c'est pas simplement pour moi, c'est pas moi que je vais en payer, c'est le clan tout entier. Donc du coup, même si je serais bien aller chercher la pizza dans la rue, ce que je risque de faire, c'est de faire perdre une bataille à l'équipe. Et ça va marcher dans tout un tas d'autres domaines. Cette idée aujourd'hui, à un moment donné, on peut penser que c'est vachement bien de filer des responsabilités aux gens, mais filer des responsabilités aux gens, c'est un moyen de coercition parfaitement habile. Il n'y a rien de mieux pour tenir quelqu'un que de lui filer des responsabilités. Donc, ces éléments, un petit peu, je les ai évoqués, je vais revenir peut-être sur certains. L'individualisation, alors c'est de dire qu'effectivement, on est dans une époque et avec des médias qui sont des médias qui individualisent les formes de communication, qui les individualisent, et moi, si je devais manifester une inquiétude, il n'y a pas que des inquiétudes dans mon discours, parce que je passe mon temps à utiliser des machines comme ça, donc j'y prends aussi un certain plaisir, et il y a d'autres plaisirs à d'autres endroits, mais n'empêche que moi je constate que quand j'étais petit, je suis pas né avec l'informatique, mais je l'ai vu quand même pas mal arriver, la micro-informatique. Il y avait un mouvement dans la micro-informatique qui était d'avoir notamment des écrans de plus en plus larges, de plus en plus grands. Et donc, un espace, un univers visible, une définition de plus en plus précise, où on voyait de plus en plus de choses. Et je le fais, je joue le truc, hein, en faisant ça, et ben, je m'ouvre au monde. Alors qu'aujourd'hui, quand je prends le métro, y compris quand il est surchargé, les gens communiquent avec le reste du monde. Mais le monde s'est vachement rétréci. Et la surface d'affichage, le monde affiché, s'est vachement rétréci et ressemble de plus en plus à une liste de courses. Ah, je réponds aux tweets de machin, tac, parce que j'ai tous mes trucs qui sont les intentions. Donc, il n'en reste pas moins qu'on est dans une individualisation du processus de communication. Parce que l'ordinateur, quand on fait un jeu comme le parfait, c'est un jeu qui nous amène à nous isoler. Parce que je ne vais pas jouer dans le salon, bien qu'on essaye de nous vendre des consoles de salon, mais des consoles de salon, ça dure 15 ans. Une console de salon, ça va à peu près quand on joue de façon collective. si effectivement on a une Wii et qu'on va côte à côte jouer à faire du hula hoop, ça nous amuse pendant une soirée, ça fait sourire pendant une conférence. Bon, très bien, mais on ne va pas le faire peut-être tous les samedis soirs. Papa et maman vont le faire le jour de Noël et les 15 jours qui suivent en croyant qu'ils ont trouvé l'outil magique qui permet de reconstituer un lien générationnel. Mais en vérité, quand on va faire un jeu vidéo, si on le fait dans le salon, mettez-vous à la place de celui qui n'a pas la manette, qui se colle le son d'un truc. C'est une télécommande en pire. Déjà, quand papa avait la télécommande, c'était pénible. Il changeait sans arrêt pour... on ne sait pas pour quelle raison, mais il avait toujours une bonne raison de zapper pour aller voir si le match avait repris ou pour éviter la pub sur telle chaîne. Là, on est dans une logique où il y a une histoire qui se déroule, qui fonctionne dans la tête de celui qui est en train de jouer, mais pas dans la tête de celui qui est en train de regarder. Et avec un scénario qui, somme toute, n'est pas intéressant pour un spectateur. C'est un scénario qui est très intéressant pour un joueur. C'est un scénario qui est parfaitement inintéressant pour celui qui regarde. Regardez les phases de jeu qu'on a regardées tout à l'heure, ça va bien 5 minutes, mais une fois qu'on a vu l'autre faire des jolis coups de lance, bon, ça va bien un moment. Celui qui est en train de jouer, c'est pas pareil, parce que celui qui est en train de jouer, il n'a pas intérêt à rater le moment où il doit le mettre. Donc lui, il est concentré sur l'instant où il va faire, sur l'action qu'il va faire. Celui qui regarde, il ne fait rien. Il est juste regardé un coup de lance qu'il a déjà vu 550 fois. Donc au bout d'un moment, ça lève. Par-dessus le marché, rajoutez ça, le son, c'est un son répétitif, hein. Vous n'avez pas des dialogues qui tuent à chaque fois, à chaque réplique. Donc, on a une forme d'individualisation. La toute-puissance de la réalisation immédiate, alors ça, c'est une espèce d'utopie que développe l'informatique. C'est qu'avec l'informatique, on a cru pendant des années que l'informatique serait un truc qui augmenterait notre possibilité d'être plus productif, de faire plein de choses. Ben, en fait, ça a permis de valoriser un mot que personne connaissait il y a une quinzaine d'années, mais que tout le monde a en tête désormais, c'est le terme de procrastination. Ça, celui-là, maintenant, vous savez ce qu'il veut dire. Vous en avez entendu parler ces dernières années, parce que, effectivement, on a l'impression qu'on peut faire des choses. Et on peut faire des choses, très probablement, et j'en suis persuadé, bien mieux, bien plus précises, bien plus jolies, bien plus élégantes, présentées. Faire une présentation avec un diaporama, eh ben, c'est peut-être bien plus sympa, bien plus ludique que de le faire assis à une table avec un paquet de notes devant soi. Mais c'est pas moins long à préparer. C'est pas grave. Je gagne pas de temps à le faire là-dessus. Je gagne peut-être en qualité, c'est le même profil. Mais je gagne pas de temps. Je suis pas tellement plus productif. J'en fais beaucoup plus, mais cette productivité-là, elle ne me rapporte pas du temps de loisir supplémentaire. Peut-être que je gagne plus, mais peut-être que juste je sauve ma peau. C'est même pas sûr. Qu'on entre dans une logique, du coup, aussi de socialisation. Alors ici, je marque socialisation utilitariste. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens nous intéressent dans le clan parce qu'ils vont apporter, non pas parce qu'ils sont sympas, non pas parce que c'est des potes, mais parce qu'ils vont être utiles au clan. Ce qui fait que la bonne nouvelle, c'est que les équipes de Jones sont parfois très contentes d'accueillir dans leur rang des retraités et des chômeurs. Eh ouais, ils sont disponibles pour jouer à des heures indues. Quand vous êtes obligé quand même d'aller passer un partiel, éventuellement, si vous avez un chômeur sous la main qui fait partie du clan, il pourra prendre en charge votre joueur pendant que vous essayerez de croire que vous avez révisé pour vos parcelles et que vous serez compétent pour les réussir. Mais j'ai corrigé, des fois ça se voit quand même. C'est pas top. Hein. Je ne parlerai pas par contre de dépersonnalisation. Je parlerai de repersonnalisation. C'est-à-dire qu'on a un déplacement de l'image de soi qui autrefois, on ne va pas dire était sur notre corps, mais était sur les apparences de ce qu'on présentait aux autres. Et ça existe encore, ça n'a pas disparu. Hein. On voit l'importance des marques de vêtements, etc., et de tout ce qu'il va y avoir autour des modes vestimentaires. Mais ici, il y a un truc qui est particulier, c'est que l'avatar, le pseudo, deviennent des lieux d'investissement de la personnalité qui parfois deviennent plus forts que la personnalité civiquement connue. Alors si vous allez dans le milieu du jeu, si vous allez dans les milieux des développeurs informatiques, etc., les gars, quand ils se rencontrent, ils disent pas « je m'appelle Jean-Marc », ils disent « je suis Ézéchiel 38 ». Et là, tout de suite, l'autre « ah, c'est bon, je te reconnais !» Voilà. Et il lui met sur la tête, en quelque sorte, l'avatar qu'il a de l'autre. Mais on est dans ce que j'appellerais ici, du coup, une repersonnalisation, un déplacement des endroits où on va se construire soi. Le primat du virtuel comme lieu de reconnaissance et donc d'existence du soi. Ça va avec cet avatar. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon avatar devient plus grande notoriété que moi, eh bien, du coup, ça m'amène à avoir un ancrage dans ces dynamiques virtuelles, dans ces mondes numériques qui sont beaucoup plus forts. C'est que, ben, là, je suis un héros. Je n'ai pas envie de m'en barrer. Ça fait quand même du bien quand les autres, ils pensent que vous êtes bon, que vous réussissez quelque chose. N'oubliez pas qu'on est dans l'ère de la procrastination. Alors, si à un moment donné, on arrive quand même à gagner au moins une bataille une fois de temps en temps, d'être un héros pendant un temps et d'avoir l'émotion qu'il a eue quand il a souri, quand il a gagné son truc, eh bien, vous n'avez pas envie de quitter ce personnage. Si vous êtes d'autant plus dans un monde à l'intérieur duquel vous avez l'impression que vous ne vous y retrouvez pas, que vous n'êtes pas reconnu de cette façon-là, que vous n'avez pas cette. Et l'injonction clinique, eh bien, je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, ça, je le rattacherai en fait à un truc sur lequel j'essaie de cogiter depuis quelques années, qui sont les phases de l'appropriation des technologies humaines. Ces phases d'appropriation, alors il y a un auteur américain notamment qui a travaillé un peu là-dessus, un type qui s'appelle Grohol, et qui lui a travaillé sur les addictions à Internet, différentes formes d'addiction à Internet, mais ce type de schéma, à mon sens, s'applique à toute forme d'appropriation, au moins technologique, peut-être même pas seulement technologique, mais en tout cas à toute forme d'appropriation d'objets de communication, que moi j'appelle des dispositifs de communication, avec systématiquement une première phase qui est une phase de découverte. La phase de découverte, selon si vous faites partie des gens qui sont curieux ou des gens qui sont sceptiques, eh bien ça va être « ça m'intéresse pas », et puis les autres c'est « ah oui, il y a un truc qui est super nouveau, c'est les nerds, ceux qui adorent tous les gadgets, ils foncent ». Et ça vous les reconnaissez par exemple avec le traitement de texte, c'est les gens qui sont plus contents d'essayer le traitement de texte, et puis vous avez les autres personnes, ceux qui sont sceptiques, qui vont vous dire « c'est quoi ce truc-là, les lettres ne sont même pas dans l'ordre alphabétique ». Et vous, elles n'ont pas forcément peur, elles se demandent bien pourquoi. Alors, vous avez une explication, mais qui ne sont pas celles de l'histoire, que le cerveau de mouvement, rien à voir. C'est pas pour des questions d'ergonomie. C'est pour éviter que les petites machins, quand ce c'était des machines à écrire, et bien que les barres elles se prennent les unes dans les autres. Mais voilà, il n'y a plus de barres, on continue à garder ce truc-là, et on a gardé ce conservatisme-là. Donc il y a une phase de découverte, et puis toujours avec mon traitement de texte, si je prends ça comme exemple, eh bien il y a une phase qui va devenir une phase d'enchantement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec mon traitement de texte, je découvre que je peux mettre de la couleur sur les lettres. Avant, le gars, il disait, je passe des heures à taper parce que je cherche mes lettres, et puis là, il peut mettre du rouge sur ses lettres. Ah, c'est vachement bien. Ah, puis je peux changer mon plus gros. Oh, c'est trop cool. Ah, je peux changer de police. Oh, t'as quoi comme police? T'as quoi comme police comique? Oh, punaise, moins de l'examen. Une police comique, on me rend un mémoire avec comique. D'entrée de jeu, j'enlève deux points. Je hais les polices. Beaucoup de polices en général. Surtout des polices privées, parce que je suis boss. Donc, ils sont en train de découvrir ça, ils découvrent les clipartes. Et puis là, ils se pointent à l'association en disant « Faut faire une lettre aux adhérents pour l'Assemblée Générale ?» Je la fais. Je sais faire une base de données, on va faire un MNI, et ça s'assied, ça s'attaque, ils ont tous leurs trucs avec leur nom. Faut faire un truc pour la soirée de tarot. Oh, j'ai le petit bonhomme qui tape comme ça va faire une belle affiche. où les choses sont pas mal à la boulangerie. La boulangerie, ceux qui sont dans cette salle-là, ils sont tous à la boulangerie. Dans la partie où vous avez le mur, ils sont punaisés. Les petites annonces. Parce que là, ils vont demander autour d'eux, à la gamine qui est en face, qui a 13 ans, tu veux pas garder les enfants? Pas parce qu'ils sont pervers, hein. Ça fait une petite annonce en disant, jeune fille, garde enfants, etc., etc. Quelqu'un a des chiots, mais je vais t'aider à les vendre, tes chiots, etc. Et là, ils vont faire ces belles petites affichettes avec 14 polices différentes à l'intérieur de l'affichette, les numéros qui sont mis de travers, et qui prennent bien soin d'en enlever deux ou trois pour faire croire qu'il y a plein de gens qui sont intéressés, faut se brûler. Donc, on a cette stratégie-là. Et puis, un soir, en rentrant du CA, la personne arrive à la maison, quelqu'un l'attend, il lui dit, c'est ton ordinateur ou moi? Là, généralement, j'en trouve bêtise. Ils éteignent l'ordinateur. Alors, donc, et ils entrent dans cette phase où ils vont raconter tout autour d'eux que ouais, mais l'ordinateur, c'est pas le truc qui permet de rapprocher les gens. Tu crois que tu gagnes du temps, mais avec ces polices, ces machins, tu passes des heures à essayer de refaire un truc. Les imprimantes, ça marche jamais. Les operating systems, c'est plein de virus, c'est pas fait, etc. Ils ont tout à reprocher à l'ordinateur. Jusqu'au jour où ils ont été licenciés, qu'ils ont besoin de faire un CV. Et finalement, ils n'ont pas perdu leur temps quand ils étaient dans la phase d'enchantement, parce que là, ils retrouvent un petit peu leur savoir-faire, et ils vont entrer dans une utilisation raisonnée, qui vont peut-être se débarrasser d'un certain nombre de polices et faire un CV qui tient la route. Ces trucs-là, on va les avoir à peu près pour tout. Puis on a beau le savoir, on tombe forcément dedans. Moi, à chaque fois que j'ai un nouveau téléphone portable, c'est-à-dire tous les 2-3 ans quand je me suis énervé et que j'adore casser un téléphone portable quand je suis énervé. Mais j'en dis pas cher. J'essaye de répondre solide et pas cher. N'empêche que pendant 2 jours, je vais saouler tout le monde à la maison et puis ils vont m'entendre. Parce que je fais une sonnerie. Et puis je vais passer 2 soirées sur internet et si ça va, comment je pourrais bien faire pour changer de fond d'écran, ce machin-là? Je vais mettre un truc qui me plaît à la place. Donc, on a ces phases-là. On sait que ça marche à chaque fois. On va rentrer dans ce truc-là. Parce que ça fait partie des choses nécessaires. Vous n'êtes pas obligé d'y coller sur votre vie amoureuse, ce schéma-là. Mais, n'empêche que pour les appropriations en matière de communication, que, eh ben, là, ce rapport-là qui apparaît. Pourquoi je reviens sur ce truc-là? Parce qu'un jour, il y a un type qui me dit, mais ce serait quand même vachement mieux si on pouvait faire que quand les gens ils font un jeu, ils restent dans cette phase-là. Moi, je suis tombé des nues, puis je lui ai dit, ouais, mais pour un individu normal, ça ne marche pas. Parce que pour un individu normal, à un moment donné, eh ben, il a faim. À un moment donné, il a envie de faire pipi. Donc, il va arrêter sa partie. Il va rompre avec cet univers, il faut qu'il puisse le faire, il a besoin de le faire, il a besoin d'être dans cette phase d'enchantement, parce que si on n'a pas cette phase d'enchantement, on ne sera jamais capable de financer la formation nécessaire pour que les gens sachent se servir d'un ordinateur. C'est bien parce qu'à un moment donné, ils sont fascinés par cette machine-là, que finalement ils vont apprendre à taper, apprendre à se servir du traitement de texte, et si on devait leur payer la formation adaptée pour qu'ils soient un jour capables de s'en servir à peu près correctement, eh bien on aurait des budgets de formation qui seraient d'une taille considérable et des trucs pour essayer de motiver et mobiliser les gens qui seraient hallucinamment lourds. Donc, ce truc-là, on en a besoin. Ça nous permet effectivement, après, d'arriver à cette phase d'utilisation raisonnée. Et cette décristallisation, elle est nécessaire. Il faut qu'à un moment donné, on ait la rupture avec ce truc-là pour prendre la distance critique qui nous permet d'utiliser. Sauf qu'effectivement, soit on est dans des situations d'enchantement, celles qui essayent et qu'on réussit d'une certaine manière à créer les gens au travers de ces jeux qui peuvent être massivement multijoueurs, au travers d'une économie qui fonctionne 24 heures sur 24, à l'intérieur de laquelle on nous fait bien valoir qu'on est quelqu'un de responsable. Et qu'on ne peut pas se défaire du clan. Mais, du coup, on entre dans une forme, et à mon sens, c'est une forme pathologique, plutôt du côté de l'obsession que du côté de l'addiction. Quand elle casse, on peut arriver en bas. Vous allez en sens inverse, et ça, ce sera plutôt peut-être pour la séance qu'on aura après, la question de la fracture numérique, ceux qui ne peuvent pas réaccéder au truc. Donc là, on est plutôt dans une logique de dépression et on se casse là-dessus. Donc voilà un petit peu pourquoi cette idée, c'est que la crise, elle est en partie générée par le fait, en fait, qu'on ne puisse pas sortir de certaines positions, qu'on ne puisse pas aller vers des positions plus souples, où des fois ça nous va bien, des fois ça nous va pas bien, où cette courbe-là, eh ben, en vérité, elle monte un petit peu parce qu'on gagne en expertise, ou elle se casse un petit peu la figure parce que finalement on n'a pas besoin d'un truc ou d'un autre. Les impacts, je dirais, alors il y a ce que j'appelle, je n'ai pas trouvé le mot qui me plaisait complètement, je parle de cybernétique déviée. Quand je parle de cybernétique déviée, c'est l'idée que on a eu une récupération. Et une récupération et un détournement qui était pourtant latent à l'intérieur, hein, d'un courant qui était courant de la cybernétique. Alors je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler du courant de la cybernétique, qui a été fondé au départ par un type qui s'appelle Norbert Wiener. Et le principe de Norbert Wiener, c'était de dire que, à un moment donné, eh bien, il fallait sortir des modèles de gouvernance dans lesquels on était, parce que c'est quelqu'un qui avait été particulièrement choqué, qui avait été traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il avait participé en tant que scientifique, et ça lui avait posé des questions de conscience fortes à la sortie de la guerre, où il disait, d'une certaine manière, on ne peut pas faire confiance aux hommes. Il faut trouver des moyens de contrôler la gouvernance que les hommes mettent en place. Et au travers de ces moyens-là, eh ben, il y avait des choses qui étaient de l'ordre d'améliorer la communication et la transparence, faire en sorte que les décisions qui sont prises soient visibles, et que les décisions soient aussi d'une certaine manière rationalisées et prises en interaction avec l'environnement, donc avec une approche qui était de dire que les hommes ne sont pas les seuls à devoir décider du destin de la planète, quelque part. La planète ne leur appartient pas plus qu'au reste des êtres vivants qui sont dessus, que ces êtres vivants ont des formes d'intelligence, et que les êtres vivants ou que les êtres intelligents ne sont pas forcément que les hommes, et que peut-être il peut y avoir des êtres artificiels qui soient intelligents. Et pour lui, l'intelligence, pour nous autres, c'était notamment la capacité de s'adapter et de prendre un certain nombre de décisions vis-à-vis de cet environnement. Donc, cette cybernétique déviée, c'est de dire qu'il y a une espèce d'utopie de la cybernétique et de la modernité qui a été récupérée, qui a été reprise, parce que si aujourd'hui vous dites « Ouais, l'ordinateur, c'est pas bien », ben vous êtes un gars. Si aujourd'hui vous dites « Ah, les smartphones, c'est nul », vous êtes un gars. Et vous êtes, d'une certaine manière, disqualifié. Si vous voulez pas penser qu'un jour la domotique, ça fera un truc vachement bien dans votre maison, eh bien, vous serez taxé d'antimoderniste, donc de réac. Et ouais. L'idée qu'on a une virtualisation de l'économie. Alors, ça, c'est l'idée. Alors, l'économie a toujours été virtualisée. C'est vrai que dès l'invention de l'écriture, on est dans la virtualisation de l'économie. Parce qu'on invente l'écriture, parce qu'on est plus capable de se représenter le réel. Et donc, on invente l'écriture pour savoir combien de quantité de blé on a en stock. Qu'est-ce qu'on a vendu, qu'est-ce qu'on a échangé avec machin. Ça sert donc à représenter des choses qui ne sont plus les choses. On utilise des signes et le signe n'est pas la chose, le mot chien ne mord pas. La dématérialisation des pratiques, eh bien, c'est là aussi. Alors, l'exemple de la bourse est un exemple criant à ce côté-là. C'est que la bourse s'est déplacée, la bourse était un lieu, c'était un endroit où les traders, vous savez, ces comportements qu'ils ont déjà actuellement, c'était une vraie bataille à la corbeille. Mais n'empêche qu'il y avait une présence, il y avait une coprésence, il y avait des lieux où les choses se faisaient ici, la dématérialisation, eh bien, elle fait que on aboutit, alors là je vais prendre une autre image, à ce que les pilotes américains qui reviennent des raids sur Bagdad en 1991, déjà,
descendent de l'avion et font It's like a video game. C'était comme dans un jeu vidéo. Et c'est vrai.
Faire de la guerre dans un avion de chasse,
ça a quelque chose du jeu vidéo, parce que vous avez une réalité, ce qu'on appelle sur les téléphones portables augmentés,
moi je dirais plutôt une réalité concentrée,
qui sélectionne un certain nombre d'informations, qui assiste la prise de décision, qui assiste l'ajustement.
Quand j'étais petit, dans un jeu vidéo, il fallait viser proprement.
Maintenant, dans les jeux vidéo, ce qu'il faut, c'est shooter au bon moment. Pas pareil.
On n'a plus besoin de viser. Dans certains sites, mais dans beaucoup de jeux, on n'a plus besoin de viser. Ce qu'il faut, c'est prendre la bonne décision au bon moment.
Ceci étant, ce n'est pas très loin de la réalité. Dans un avion de chasse, on n'est plus en 1914, où les mecs ils essayent d'être bien positionnés avec le petit viseur devant. Ce qu'il faut, c'est qu'ils appuient au bon moment, quand ils sont sûrs d'avoir approché la cible, et qu'effectivement, une missile, il va pouvoir attraper l'autre et l'atteindre. C'est lui-ci qui va chercher tout seul et qui va trouver. Donc, on est dans ces logiques qui font que on passe aux jeux vidéo, entre guillemets, pour quelqu'un qui est en train de commettre un acte de guerre, mais d'une certaine manière, ça permet, pour des gens qui sont civilisés, de faire une guerre qu'ils ne sont plus capables de faire. Parce que le sang, c'est sale. Et là, je peux tuer à distance. Peut tuer des trucs qui ne sont plus des gens, qui sont des personnages, plus des acteurs, c'est des personnages que j'abats. Donc dans un jeu vidéo, j'ai aucun problème à tirer un coup de latte à un petit champignon ou un petit personnage quand je fais jouer Super Mario. Donc ça permet de civiliser tout. Automatisation et robotisation des processus de décisionnels, c'est un truc qui se développe de plus en plus. Il y a eu un reportage sur, il y a eu une émission comme ça sur France 5. Ouais, je crois que c'est sur France 5, où on avait, eh ben, de plus en plus, les traders ne font que visualiser des décisions, des choses qui sont gérées par des logiciels à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne sont plus les traders qui achètent, ce sont les machines qui effectuent les transactions en fonction d'un certain nombre de paramètres experts, qui font que lorsqu'elle repère tel indice qui a bougé, eh bien, il y a automatiquement un mécanisme qui va lancer la prise de décision sur des achats ou des reventes de titres. C'est plus une personne qui fait, c'est une machine. Et ça veut dire que du coup, eh bien, on a peut-être des risques que ça se casse la figure. Alors, scénario entre guillemets de sortie de crise, de risque de crise, parce que ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, les petits scénarios spéculatifs que je vais présenter là sont plus des scénarios qui peuvent être des scénarios de crise, peut-être positifs, peut-être négatifs, ou qui peuvent être des trucs qui, justement, en créant des crises, permettent d'en sortir. En tout cas, de sortir d'une crise. Le premier, c'est l'idée du cataclysme numérique. Je pensais aussi à tsunami numérique, mais cataclysme numérique. Donc bien aussi. Alors ici, j'ai pris l'erreur 404, je laisse le terme de Clojo. Pour les plus jeunes, ça permet de se rappeler que cette voiture-là, c'est une 404. Donc l'erreur 404, quand vous voyez cette voiture-là sur les pages web avec ce truc-là, c'est que c'est des gens qui ont une culture un peu vintage. Et qui mettent cette voiture-là pour dire que c'est une erreur 404. Bon, quand je mets erreur 404, c'est surtout l'idée que je pense que ça va arriver. Il n'y a pas de raison, ça n'arrive pas un jour. Que le réseau Internet, dans son ensemble ou en cascade, se casse la figure. Et là, je pense qu'on va bien se marrer. Je pense que ce qui peut arriver avant, et alors là, je pense que je vais m'éclater de rire, c'est quand le satellite, le système GPS, va bugger, ne serait-ce que pendant 24 heures. Je tiens le pari qu'il y a des gens qui n'arriveront pas à rentrer chez eux. Parce qu'il n'y aura plus cette douce voix qui les ramenait du travail à leur nouvelle maison, qui leur dit « Tourne à droite, tourne à gauche. » Donc du coup, ils sont coincés parce qu'il y a plein de gens qui se sont laissés assister. Et que je pense que dans 5 à 6 ans, eh ben, on pourra demander aux jeunes lyonnais le nom des rues sur un plan. Je crois qu'il y en aura un paquet qui auront du mal à retrouver, savoir lire un plan, et puis à retrouver les rues. Donc,
le cataclysme numérique, c'est un truc qui va arriver à un moment donné. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas un jour. C'est comme les inondations, ça ne doit plus arriver, les maisons à la remède, ça se fait quand même ramasser par un torrent de boue qui déferle à un moment ou un autre, les tsunamis, ça existe toujours. Pourquoi ça n'arriverait pas numériquement? Ça arrivera numériquement. Donc, peut-être que ce temps-là va effectivement créer une crise, ou entre guillemets, une opportunité de sortie de crise. L'autre, ah oui, mais je disais, moi j'aime pas trop parce que c'est une forme de stratégie du choc. Donc pour ceux qui ont, font référence à Mélanie, oui c'est ça, Mélanie Klein, Naomi Klein, la stratégie du choc, c'est l'idée qu'on va profiter d'un moment catastrophique pour reprendre les choses en main. Que ce soit en positif ou en négatif, moi personnellement, je ne suis pas convaincu que ce soit une méthode satisfaisante. L'idée du nervous breakdown, c'est qu'en interne, les gens finissent par craquer. Voilà, c'est une petite vidéo de 13 heures au travail. Allez, celui-ci, regardez, cette espèce de grand enfant, là, de grande galère. Hop, il lance un truc sur son pote en face. Il sort de... d'entretenir comme ça des relations. Mais vous voyez qu'ils sont dans cette phase multitâche, avec sans arrêt des stimulations à droite et à gauche, et il y a toujours un téléphone qui sonne, une image qui bouge, une information, etc. Jusqu'au moment où il y en a un qui craque. Mais les hommes, ils ont des trucs à gérer à un peu de ça, ils ne vont pas s'arrêter, ils ne vont pas laisser sans vie. Bon, alors, on pourrait espérer qu'à un moment donné, ils finissent par craquer ces gens-là, mais ils sont entraînés très jeunes. Très jeunes, peut-être, grâce à certains, pas seulement à cause des jeux, hein, mais ils sont entraînés très jeunes et ils apprennent à faire. Bon. Bon, moi je l'arrête sur le 13, je veux hacker les traders. Hacker les traders à la mode Matrix, c'est-à-dire pouvoir les chauffer, leur mettre une espèce de prise USB à la base de la moelle épinière et de les connecter effectivement à un jeu vidéo où ils joueraient avec des traders, où ils seraient persuadés qu'ils sont des traders et où ils gagneraient tout le temps. Comme ça, ils font leur jeu dans leur coin, ils n'emmerderaient pas. Bon, l'autre truc, eh ben, c'est qu'effectivement, malgré tout, il existe un certain nombre de mouvements, de réactions, de contestations, de... et que derrière ces mouvements de virtualisation, ben, finalement, au travers notamment des approches de glocalisation et de localisation, eh bien, on voit qu'il y a quand même, en réaction, en contrepoint, des gens qui vont eh ben, effectivement revenir sur des logiques un petit peu différentes. J'ai choisi le terme d'Occupy parce que l'an dernier, il y avait un mouvement à New York qui était Occupy Wall Street. Et puis, j'ai mis les Anonymous, enfin un masque symbolisant les Anonymous, parce que les Anonymous étaient proches aussi du mouvement Occupy Wall Street. Ce n'était pas le même mouvement, mais ils étaient proches. Et dans l'idée que, ben, effectivement, il y a des coopérations qui se mettent en place avec des logiques plus ou moins paradoxales, alors à la fois avec des logiques de présence et d'action concrète, et en même temps des logiques qui sont des logiques qui utilisent aussi les réseaux de communication, les outils de communication, mais qui les utilisent peut-être autrement. Voilà. Et puis pour finir, et bien en vérité, l'idée ce serait de revenir à ce qui m'a échappé tout à l'heure. Donc ça, c'est une fin pour la télé. Hein.